Bien, bonjour et bienvenue à tous. Alors, avec le redoux, on a l'impression que les microbes se réveillent aussi. Et donc, là, j'espère que de nouveau, je ne vais pas avoir de problème de voix aujourd'hui parce que ma bronchite de décembre est en train de revenir en force. Donc. Bien. Tout d'abord, permettez-moi donc de vous présenter tous mes vœux les meilleurs de nouveau pour le Nouvel An chinois. Donc, vous avez ici un magnifique coq en pleine action, donc qui a sûrement plus de voix que moi, et qui vous dit donc Xin Nian Kuai Le, donc très joyeuse nouvelle année. Alors, comme nous l'avons vu la dernière fois, la Chine des Han a dû mener une percée majeure, notamment vers l'ouest. Ici, vous avez donc la Chine à l'époque des trois royaumes, c'est-à-dire au moment où l'empire Han se fragmente, comme on l'avait vu. Et donc, vous voyez donc ces poussées donc de conquête Han vers à la fois vers le sud et vers l'ouest. Donc, du côté ouest, la Chine a dû faire une percée du fait de conflits armés avec les barbares que les Chinois appelaient les Xiongnu et que peut-être nous appelons les Huns. Et d'une certaine façon, si on voulait pousser le paradoxe à outrance, on pourrait dire que c'est du fait de contacts d'ordre militaire ou d'ordre commercial que le bouddhisme, donc comme vous savez, spiritualité de sérénité et de non-violence, a pu pénétrer en terrain chinois. Alors, ce paradoxe est souligné dans un certain nombre d'ouvrages qui sont signalés ici sur la diapositive. Vous avez d'abord celui-ci d'une experte chinoise, mais qui est installée aux États-Unis, qui s'appelle Liu Xinru, et qui a écrit en anglais ce livre qui s'appelle Ancient India and Ancient China, Trade and Religious Exchanges, AD 1 to 600. Donc l'Inde ancienne et la Chine ancienne, donc échanges commerciaux et religieux entre donc l'an 1 et l'an 600 de l'ère chrétienne. Un livre paru aux presses universitaires d'Oxford, Oxford University Press, en 1988. Et d'une certaine manière, donc l'ouvrage suivant de Tan Sen Sen prend la suite puisqu'il s'intitule Buddhism, Diplomacy and Trade, The Realignment of Sino-Indian Relations from 600 to 1400. Donc, bouddhisme, diplomatie et commerce, le réalignement des relations sino-indiennes entre 600 et 1400. Un ouvrage paru en 2003 aux presses universitaires de l'Université de Hawaii, University of Hawaii Press, à Honolulu. Donc, ces deux ouvrages nous rappellent, ne serait-ce que par leur titre, que les idées ne voyagent pas dans l'abstrait. Elles sont véhiculées par des mouvements, des échanges, et notamment des mouvements de population itinérantes, au premier rang desquels vous trouvez justement des marchands, Ça peut être aussi des soldats, des militaires, donc envoyés pour régler des conflits, des aventuriers, des diplomates, et aussi, bien sûr, comme aujourd'hui, des migrants ou des réfugiés, hein, donc tous ces gens qui se déplacent. Alors, à propos de Tan Sen Sen, qui est un savant indien, mais lui aussi, donc établi aux États-Unis. Si vous pouviez penser à éteindre vos portables avant d'entrer dans l'amphithéâtre, ça nous aiderait beaucoup. Alors, donc, Tan Sen Sen, qui est enseigne à New York, viendra donc au Collège de France le vendredi 23 juin dans le cadre d'un colloque que j'organise pendant toute la journée donc, du vendredi 23 juin, un colloque qui s'intitulera donc Chine-Inde, universalité au pluriel, universalité croisée. Donc c'est un colloque qui réunira des collègues indiens mais qui travaillent sur la Chine et donc un certain nombre de sinologues parmi lesquels un certain nombre de collègues français. Et donc il s'agira justement en fait de, comme le titre l'indique, de croiser ces universalités indiennes et chinoises. Donc Tan Sen Sen est vraiment très bien placé pour intervenir dans cette rencontre. Alors, comme nous avons commencé à le voir la dernière fois, la légende fait commencer donc l'aventure bouddhique indienne en Chine sous les Han postérieurs, c'est-à-dire donc cette partie des Han qui concerne donc les deux premiers siècles de l'ère chrétienne. Donc, vous avez dans le Hōhanshū, donc le livre des annales des Han postérieurs, donc qui est censé couvrir ces deux premiers siècles, consacre tout un chapitre aux contrées de l'Ouest, dans le Xiyuzhuan. Alors, il me semble avoir signalé que cette expression Xiyu, donc des contrées de l'Ouest, commence à apparaître dans les annales historiques de la dynastie Han, alors qui commence en réalité avec le Shidi, donc les mémoires historiques de Sima Qian, donc composées autour de l'an 100 avant Jésus-Christ, et qui continue donc dans les annales historiques des Han, c'est-à-dire des Han antérieurs, le Hanshu, qui couvre donc les deux premiers siècles avant l'ère chrétienne, et qui continue donc sur les Han postérieurs, donc comme nous l'avons sous les yeux sur cette diapositive. Alors, ces annales des Han postérieurs ont été compilées donc en réalité au 5e siècle de l'ère chrétienne, puisque donc l'auteur, le compilateur, est mort en 445 de l'ère chrétienne. Mais nous savons que le chapitre sur les contrées de l'Ouest, donc celui qui nous concerne maintenant, se fonde en réalité sur un document qui a été composé aux environs de 125 avant de l'ère chrétienne, c'est-à-dire donc au début du IIe siècle. Alors, je signale au passage, ça c'est quelque chose que vous aviez en haut de cette diapositive bibliographique, le nom d'Édouard Chavannes, donc qui a vécu entre 1865 et 1918 et qui est un des très grands noms de la sinologie française moderne et qui a été donc professeur au Collège de France. Et Édouard Chavannes s'est beaucoup intéressé justement à ces divers chapitres concernant les contrées de l'Ouest dans ces diverses sources dynastiques, Donc là, vous trouvez dans les travaux d'Edouard Chavannes des traductions intégrales donc, de ces textes. Alors, notre texte ici commençait par une indication concernant ce que nous appelons actuellement l'Inde. Alors, je ne vais pas relire entièrement le passage, mais je relis simplement la première phrase. Donc, « Tianzhuguo, Yiming, Yuandu, Zai Yuezhizhi Dongnan, Shu Qianli. » Donc, le pays ou le royaume de Tianzhu porte aussi le nom donc, de Yuandu. Donc, nous avions vu la dernière fois que ce qu'on lit ici en chinois moderne, Shentu, ici, se lit également donc Yuandu ou Juandu, et fait référence donc au nom sanskrit donc Sindhu, qui désigne en fait la rivière, enfin le fleuve Indus. Je vous ai mis ici donc à côté le nom moderne que les Chinois donnent à l'Inde, c'est-à-dire Yindu. Donc vous percevez que tous ces noms, du fait des variations de prononciation à travers les siècles, en fait désignent la même chose, donc Tianzhu, Shentu, Yuandu ou Yindu, donc qui désigne en chinois l'Inde. Et alors le texte ici nous indique que il est situé à plusieurs milliers de li au sud-est des Yuezhi. Les Yuezhi que vous voyez ici, situés ici sur la carte. Et donc, le texte vous dit que ce pays de Yuandu se situe donc à plusieurs milliers de li au sud-ouest de cette peuplade des Yuezhi. Alors, ces Yuezhi, nous allons voir justement qu'il s'agit de ce que, du côté indien, on appelle les Kushan. Alors, je reviens tout de suite, mais pour l'instant, donc, le texte continue en disant que ce pays donc, de Tianzhu a des coutumes identiques à celles des Yuezhi, mais le pays lui-même est situé en basse altitude et il est humide et d'une chaleur étouffante. Et donc ce pays est près d'un grand fleuve, Da Shui, qui désigne probablement donc l'Indus, et les gens montent des éléphants pour aller au combat. Ça, c'est quelque chose qui a donc frappé l'imagination chinoise. Donc, ces éléphants qui servent de chars d'assaut, comme vous l'avez ici sur cette illustration. Mais leurs gens sont plus faibles que les Yuezhi. En effet, ils pratiquent la voie de Futu. Ici, donc, que vous avez ici, Xiu Futu Dao. Donc, ils pratiquent la voie de Futu, qui est une transcription chinoise du Bouddha. Il est devenu une habitude pour eux de s'abstenir de tuer et de livrer bataille. Donc ici, vous avez une première indication justement sur cette fameuse voie du Bouddha, qui est d'abord de s'abstenir de tuer les êtres vivants. C'est pour ça que le bouddhisme est très souvent associé justement à une alimentation non carnivore, donc purement végétarienne. Quand on part vers l'ouest de chez les Yuezhi et du royaume de Kaofu, Kaofu qui correspond à Kaboul, donc en Afghanistan aujourd'hui, au sud, on arrive à la mer occidentale, ici, donc, c'est-à-dire donc l'océan Indien, et à l'est, on arrive au royaume de Panchi. Alors, Panchi, on discute encore beaucoup pour arriver à identifier ce lieu. Certains y ont vu en fait un endroit qui est près du golfe du Bengale. Bon, tout ça reste évidemment un petit peu hypothétique, mais le texte nous dit tout cela, donc toute cette zone fait partie donc de Yuantou. Ce royaume compte plusieurs centaines d'autres villes que la capitale, qui ont chacune leur chef, et plusieurs dizaines d'autres pays qui ont chacun un roi. Donc ça, c'est aussi une caractéristique qui marque les esprits chinois, c'est cette multiplicité donc des centres du pouvoir. Alors, bien qu'ils diffèrent légèrement les uns des autres, tous ces royaumes, toutes ces villes portent tous le nom de Yuantou et appartenaient tous à cette époque, c'est-à-dire à l'époque où le document a été rédigé, c'est-à-dire autour de 125 de l'ère chrétienne, appartenaient tous aux Yuezhi, puisque les Yuezhi avaient tué leur roi. Il est évident que ces Yuezhi sont beaucoup plus agressifs que les gens de Yuantou, apparemment, avaient tué leur roi et installé un général en chef pour mettre leurs gens sous un même commandement. Ici, j'ouvre une parenthèse pour faire référence à aussi un grand nom qui a enseigné ici pendant pas mal d'années au Collège de France. J'ai nommé donc l'indianiste Gérard Fussmann, qui a occupé donc la chaire d'histoire du monde indien entre 1984 et 2011. Et Gérard Fussmann donc précise que au début du deuxième siècle avant notre ère, un ensemble de tribus nomades comptant plusieurs dizaines de milliers de cavaliers et connu par les sources chinoises sous le nom de Yuezhi, envahit venant de l'est la Sogdiane ou la région actuelle de Samarcande, et la Bactriane, soit la vallée de l'Oxus, aujourd'hui divisée entre le sud de l'Ouzbékistan, le Tadjikistan et le nord de l'Afghanistan. Donc une région dont les Grecs, puisque Alexandre, les troupes d'Alexandre étaient présentes peu de temps auparavant, les Grecs déjà ne possédaient plus l'entier contrôle. Et donc, Gérard Fussmann a consacré certains de ses travaux justement à ce qu'on a appelé donc l'Empire Kushan, donc en indiquant que le roi fondateur de cet empire s'est imposé en soumettant à son autorité donc l'ensemble de la population de la Bactriane et en envahissant le nord-ouest de l'Inde. Et donc, l'un des souverains les plus connus de cet empire Kushan, c'est un certain Kanishka, qui a régné, quelles que soient les dates qu'on lui attribue, disons en gros, aux alentours du IIe siècle de l'ère chrétienne, et dont la légende voudrait qu'il a été un protecteur du bouddhisme, ce que Gérard Fussmann a tendance à contester ou en tout cas à nuancer. Alors, cet empire Kushan, le voilà, donc vous voyez un petit peu l'étendue de la chose, et vous voyez aussi que la description qu'en donnent les sources chinoises est à peu près exacte. Donc là, ça va vraiment, en fait, si on surimpose justement à cette carte de l'empire Kushan, donc vous voyez ici Gandhara au nord et la vallée du Gange ici à l'extrême pointe sud-est de cet empire, si on y surimpose donc la situation actuelle avec nos États-nations actuels, vous voyez que donc cet empire Kushan couvre donc tout ce qu'on appelle les stans ici, hein, donc Ouzbékistan, Tadjikistan, Kyrgyzstan, etc., hein, Afghanistan, Pakistan, et donc une grande partie de l'Inde du Nord. Alors, cette terre de, je reviens encore une fois à mon texte, cette terre de Yuentu intéresse les Chinois d'abord par ce qu'elle peut leur apporter de produits rares et exotiques. Alors, elle produit notamment donc Chuxiangxi, etc., donc des éléphants, donc notamment intéressants pour leur ivoire, des rhinocéros intéressants pour leurs cornes, de l'écaille de tortue, et ensuite toute une série de métaux précieux, de l'or, de l'argent, du cuivre, du fer, du plomb, de l'étain. Et ensuite le texte continue en disant que vers l'ouest, Yuentu communique avec Daqin. Daqin, dont nous avons vu qu'il s'agit en fait de l'extrémité orientale de l'Empire romain, c'est-à-dire probablement donc la province romaine de Syrie, qui fait autant parler d'elle actuellement. Et donc cet empire de Yuentu possède des objets précieux qui viennent de Daqin, de cet empire romain. Donc à Yuentu, on trouve aussi donc des tissus fins, de fines cotonnades, d'excellents tapis de laine, toutes sortes de parfums, des pains de sucre, alors peut-être il s'agit du sucre candi ici, du poivre, du gingembre et du sel noir, qui est peut-être du sel gemme. Alors autant d'objets précieux qui servent de présents pour payer le tribut et qui sont de fait devenus de plus en plus prisés sous les règnes des empereurs des Han postérieurs, dont la culture un petit peu décadente pourrait tout à fait rappeler celle de justement de l'Empire romain finissant. Je rappelle que l'Empire Han, donc enfin la dynastie Han, s'écroule définitivement en l'an 220 de l'ère chrétienne. Donc pendant ce deuxième siècle de l'ère chrétienne, donc vous avez cette vogue de ces produits exotiques venus de l'Ouest. Alors, le texte continue ici en nous disant qu'à l'époque de l'empereur He, hein, qui a régné entre 89 et 105 de l'ère chrétienne, Yuentu a envoyé plusieurs émissaires apporter le tribut, mais ensuite les régions de l'Ouest se sont soulevées et le tribut a cessé pendant un temps. Et sous le règne de l'empereur Huan, qui a régné donc entre 147 et 167, me semble-t-il, donc à l'ère Yanxi, deuxième et quatrième année, ce qui correspond aux années 159 et 161 de l'ère chrétienne, donc ces gens de Yuentu sont revenus à deux reprises apporter le tribut à la frontière de Zhenan, c'est-à-dire donc au sud du soleil, qui correspond donc à la commanderie la plus méridionale de l'empire Han, qui correspondrait donc, selon Chavannes, au Tonkin. Chavannes, évidemment, s'exprime au moment de la colonisation française donc, de l'Indochine, et donc cette commanderie du Zhenan au sud du soleil donc, serait donc le Tonkin. Je rappelle qu'actuellement encore, le Vietnam c'est tout simplement la transcription du chinois, donc Yuanan, qui est au sud de la Lune. Donc vous avez au sud de la Lune et au sud du Soleil. Alors il semblerait donc que ces émissaires de Yuantou aient suivi l'itinéraire que devait suivre quelques années plus tard, en l'an 166 de l'ère chrétienne, celui qu'on a appelé l'ambassadeur de Marc Aurèle. Alors là aussi, nous sommes un petit peu dans la légende, mais il semblerait que quelqu'un venu justement de cette province de Dacin, de l'Empire romain oriental, se soit présenté donc à la frontière méridionale de l'Empire Han, donc en 166, ce que les sources chinoises, évidemment, n'ont pas manqué de noter. Comme le dit Gérard Fussmann, les Kushan, on le voit, contrôlent les grandes routes du commerce international de l'époque et ces grands entrepôts. Si je reviens à cette carte, donc vous avez Bactre et Begram donc en Afghanistan, Peshawar fondé par Kanishka au Pakistan, Mathura en Inde, les ports du nord-ouest de l'Inde et de la côte aujourd'hui pakistanaise. Et donc les Kushan assurent ainsi la sécurité des transactions commerciales le long de ce qu'on a appelé de manière très commode mais assez comment dire trompeuse la route de la soie. Alors encore une fois, je pense que cette expression, il faut au moins l'employer au pluriel, les routes de la soie, parce qu'il n'y en avait pas qu'une seule. Mais toujours est-il que il y a un point utile et éclairé qui a été fait récemment par une experte américaine, donc qui s'appelle Valerie Hansen, dans un ouvrage intitulé The Silk Road, A New History, donc la route de la soie, une nouvelle histoire, donc publiée aux presses universitaires d'Oxford en 2012. Donc Valerie Hansen, dans cet ouvrage, donne une description historique et vraiment au ras du terrain, si j'ose dire, de cette histoire de la route de la soie, sans en enlevant justement tout ce côté un petit peu légendaire et fabuleux. Alors, donc notre texte du Hōhanshū continue, et nous en étions là donc la dernière fois, en nous parlant de ce qui s'est passé sous le règne de l'empereur Ming. Alors, Shichuan Mingdi, j'en suis ici. Shichuan Mingdi, Mengjian Jinren, Changda, Dingyou Guangming, Yiwen Qunchen. Donc, on se raconte d'une génération à l'autre. Donc là, il y a quand même l'indication que c'est quelque chose d'un peu légendaire, que l'empereur Ming, donc des Han postérieurs, qui a régné entre 58 et 75, donc au premier siècle de l'ère chrétienne, on raconte que cet empereur vit un jour en rêve un homme tout en or, un homme doré, de haute stature, avec une lumière brillante au sommet du crâne. Et donc, l'empereur, au réveil, s'est empressé d'interroger, donc, littéralement, la foule de ses ministres. Alors, Huo Yue, donc, l'un d'eux, répondit « Xi fang you shen, ming yue fuo, qi xing, zhang liu chi, er huang jin se. » Donc, à l'ouest, il y a une divinité qui a pour nom Fuo. Fuo, c'est une autre transcription chinoise pour le Bouddha. son corps mesure 16 chi. C'est-à-dire, donc ici, le texte vous dit littéralement un zhang. Un zhang qui vaut 10 chi plus 6 chi. Donc ça fait 16 chi. Et donc, dans notre système métrique, ça nous fait un homme qui mesure 3,7 m. Donc, même en prenant nos plus grands basketteurs, on n'y arrive pas. Hein. Donc là, ici, en fait, il s'agit d'un homme qui fait deux fois donc, la taille d'un homme à peu près normal. Hein. Et il est, Huang Jingse, il est couleur d'or. Alors, ici, vous avez très curieusement deux traits physiques, donc un homme de très, très, très haute stature et de couleur dorée, qui correspondent en fait à certains éléments que vous trouvez dans la liste canonique des 32 lakshanas, c'est-à-dire des caractéristiques physiques du Bouddha. Donc dans la tradition indienne, les hommes d'exception ou les demi-dieux, les dieux, ont des caractéristiques physiques donc qui font d'eux en fait vraiment des corps parfaits, hein. Et donc cette haute taille et cette couleur dorée donc font partie donc de ces caractéristiques physiques. Alors le texte continue. Di yu shi qian shi tian zhu wen fo dao fa sui yu zhong guo. Donc là-dessus, l'empereur Ming envoya des émissaires au Tianzhu, donc dans ce pays qui correspondrait à l'Inde, pour s'enquérir de la loi, c'est-à-dire en sanskrit le dharma, du Bouddha. Cette notion de loi le dharma du Bouddha, nous aurons l'occasion d'y revenir. À la suite de quoi on vit apparaître dans le Zhongguo, donc le pays du milieu, c'est-à-dire la Chine, des images et des statues du Bouddha. Donc nous allons voir justement que ces images et ces statues du Bouddha, c'est en Inde même en fait un phénomène récent à l'époque, hein, c'est-à-dire au premier siècle de l'ère chrétienne, elles viennent tout juste d'apparaître en Inde aussi, hein, parce que, comme nous allons le voir, donc le Bouddha n'était pas représenté sous forme anthropomorphique avant cette époque. Alors, le texte continue, donc, « Chu Wang Ying, Shi Xin Qi Shu, Zhongguo Yin Ci, Po Yu Feng Qi Dao Zhe. » Donc, le roi de Chu, hein, qui s'appelait Ying. Alors, ce roi Ying de Chu, il s'agit donc du demi-frère plus jeune de l'empereur Ming, qui règne sur un royaume un petit peu périphérique qui se situe dans la province actuelle du Jiangsu. Jiangsu, c'est dans la région de Shanghai, donc nous sommes un petit peu au sud de la Chine. Et alors donc ce roi Ying de Chu commença à croire au shu, c'est-à-dire aux techniques, sous-entendu bouddhiques. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que en fait, le bouddhisme commence à pénétrer en Chine sous forme non pas de doctrine cohérente, hein, de doctrine religieuse ou philosophique, mais sous forme de techniques. C'est-à-dire des formes de méditation, des formes de yoga, etc. C'est ça qui a commencé par entrer en Chine. Et pour cette raison, dans le pays du milieu, dans le Zhongguo, certains se mirent à accepter, à accueillir donc cette voie, ce Tao du Bouddha. Hou Huan Di Hao Shen Shu Si Fu Tu Lao Zi Bai Xing Shao Yu Feng Zhe Hou Sui Zhuan Sheng. Donc, par la suite, l'empereur Huan, donc celui que nous avons rencontré précédemment, donc qui régnait entre 147 et 167 de l'ère chrétienne, se mit à prendre de l'intérêt pour ces divinités et à offrir plusieurs sacrifices à Futu. Futu ici, donc autre transcription donc du Bouddha, et à Laozi. Donc cette indication donc de culte rendu en même temps au Bouddha et à Laozi, c'est tout à fait intéressant et nous aurons évidemment l'occasion de développer cette curieuse combinaison. C'est-à-dire que au fond, d'une certaine manière, le Bouddha commence à pénétrer en Chine comme une espèce de de demi-frère de Laozi, c'est-à-dire enfin de quelqu'un qu'on assimile, qu'on met un petit peu dans le même sac que Laozi, d'où évidemment une sorte d'amalgame entre le bouddhisme et le taoïsme sur lequel nous allons revenir. Alors les gens du peuple, du fait précisément de cet amalgame, se mirent à l'accepter quelque peu, puis ils devinrent de plus en plus nombreux donc à y croire. Donc ici nous avons véritablement les tout débuts de l'aventure bouddhique en Chine, racontée bien sûr sous forme de légende, ce songe de l'empereur Ming qui voit cette divinité dorée dans son rêve. Et c'est à la suite justement de ce rêve que l'empereur Ming aurait dépêché donc des émissaires vers l'ouest pour en savoir davantage sur ce Bouddha. Et c'est au retour de ces émissaires qu'aurait été construit à la capitale chinoise de Luoyang, donc le fameux monastère du cheval blanc, le Bai Ma Si, que l'on voit encore actuellement à Luoyang, mais naturellement, si ce monastère a jamais existé à l'époque, il n'est certainement pas d'époque aujourd'hui. Alors donc, ça c'est, on peut dire, la légende. Mais ce que on peut lire entre les lignes, c'est qu'il est à peu près certain que le Bouddha a d'abord été perçu en Chine comme une divinité exotique venue de l'Ouest, un petit peu comme tous ces produits, ces éléphants, ces rhinocéros, ces écailles de tortue, etc. Donc dans le lot, si j'ose dire, vous avez ce Bouddha. À qui on attribuait donc des pouvoirs surnaturels, de la même façon qu'on attribuait des pouvoirs surnaturels à Laozi et à l'empereur jaune, qui sont des figures tutélaires justement du taoïsme. Alors ce Bouddha présentait l'avantage considérable d'avoir le pouvoir de conférer l'immortalité aux mânes des défunts, c'est-à-dire donc les ancêtres défunts, on lui attribuait le pouvoir de leur donner l'immortalité, ce qui évidemment est quand même assez intéressant. Et ça n'est évidemment que bien plus tard que des notions ayant trait aux conceptions véritablement philosophiques et ontologiques du bouddhisme indien ont commencé à intéresser plutôt les élites, c'est-à-dire les milieux lettrés en Chine. Alors là, je reviendrai un instant donc au propos de Gérard Fussmann, qui nous parlait justement de cet empire Kushan qui d'une certaine façon, a assuré la sécurité des routes commerciales, en particulier donc une sécurité pour la circulation des cultes indiens. Alors au premier rang desquels vous avez le shivaïsme et le bouddhisme, et qui leur a permis donc de progresser vers le nord, C'est-à-dire vers Bactre, vers Gilgit, et de là vers le Xinjiang, c'est-à-dire donc le Grand Ouest chinois. Le rôle des Kushan donc a aussi été faciliter donc la circulation des objets d'art en particulier et des artistes. Et donc nous avons l'expression justement de cette circulation à travers de magnifiques chefs-d'œuvre, notamment dans la représentation justement physique du Bouddha. Ici vous avez le souvenir donc aussi d'un grand savant français, donc Alfred Fouché, que vous voyez de manière assez facétieuse assis dans le giron d'un Bouddha sur le site d'Ajanta en Inde. Alors je reviens un instant à ma bibliographie. Alfred Fouché, qui a vécu entre 1865 et donc parfait contemporain d'Édouard Chavannes et qui est mort en 1952 et à qui on doit de nombreux travaux sur justement cette zone intermédiaire entre l'Inde et la Chine. Alors pour notre propos, je citerai simplement donc son livre sur l'art gréco-bouddhique du Gandhara, étude sur les origines de l'influence classique dans l'art bouddhique de l'Inde et de l'Extrême-Orient, paru en deux tomes entre en gros 1905 et 1951 à Paris, à la Librairie Nationale, et cet autre ouvrage qui s'intitule « La vie du Bouddha d'après les textes et les monuments de l'Inde », première édition donc parue à Paris aux éditions Payot en 1949. Donc Alfred Fouché nous parle en particulier de cet art gréco-bouddhique du Gandhara, dont vous avez ici un exemple, ce magnifique bodhisattva. Bodhisattva, c'est quelqu'un qui, à la différence du Bouddha, est un être qui a connu donc l'éveil bouddhique, mais qui s'attarde justement dans notre monde pour sauver donc le maximum d'êtres justement de ce monde de souffrance. Donc il s'agit ici du bodhisattva Maitreya que vous voyez donc dans sa version gréco-bouddhique. Vous voyez donc des caractéristiques encore tout à fait en fait grecques et même romaines, le visage très européen, la moustache, hein, et le drapé donc très caractéristique du drapé gréco romain. Et donc cette statue nous rappelle donc que les troupes d'Alexandre donc effectivement n'étaient finalement pas très loin et ont sans doute laissé donc des traces de leur passage, notamment des traces d'ordre artistique. Alors vous avez ici donc un magnifique exemple de cet art du Gandhara qui correspond donc, nous l'avons vu, à la région actuelle du nord du Pakistan. Donc si je reviens juste un instant à ma carte ici, donc ici vous avez le Gandhara qui, vous voyez, est au nord du Pakistan. Et cet art du Gandhara coexiste avec une autre forme d'art qui provient donc de la partie orientale de l'empire Kushan et qui se traduit par une autre version du même bodhisattva Maitreya, mais qui est ici donc originaire de Mathura, hein, qui correspond donc à l'état indien actuel de l'Uttar Pradesh. Donc nous sommes dans le nord de l'Inde. Et vous avez ici donc une représentation du Bodhisattva qui est en contraste quand même assez flagrant avec celui-ci. Pourtant, il s'agit du même personnage. Mais d'abord, ce qui frappe ici, c'est quand même que nous avons quelqu'un qui est pratiquement nu, hein, qui a enfin des caractéristiques physiques assez différentes. Là, nous avons un exemple d'art tout à fait indien et non pas indo-grec, va donner justement en fait les canons esthétiques de tout un art bouddhique qui va se développer donc au nord de l'Inde et à partir de là voyager donc vers l'Asie orientale. Ce que ces deux représentations ont en commun, c'est quand même justement ce halo, hein, autour de la tête. Vous l'avez ici aussi dans ce Bouddha du Gandhara, hein, ici également, hein, et qui représente probablement ce que les textes chinois appelaient la lumière au sommet du crâne, hein, que l'empereur Ming aurait vu en rêve. Donc ce halo, bien sûr, nous le retrouvons également dans d'autres traditions artistiques, nous les avons aussi dans les églises chrétiennes, donc ce halo de lumière qui représente toujours une forme de sainteté ou de semi-divinité. Alors, vous voyez donc que cet art de Mathura, donc du nord de l'Inde, va ensuite se développer dans des représentation vraiment tout à fait magnifique. Vous avez ici donc un Bouddha de l'époque indienne Gupta, c'est-à-dire donc qui date du 5e siècle de l'ère chrétienne et qui est originaire de Sarnath, également dans l'Uttar Pradesh, c'est-à-dire donc au nord de l'Inde, Sarnath, qui est un des grands lieux bouddhique, donc au nord de l'Inde. Et c'est donc cet art Gupta, donc vous voyez donc avec ce drapé très 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 particulier. Donc là, vous avez un Bouddha qui est ici habillé, mais à peine. Hein, on devine très très bien donc les formes du torse, des jambes sous le tissu très 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 fin, et c'est cette représentation donc du Bouddha qui va voyager donc vers la Chine et plus tard vers le Japon et vers l'Asie du Sud-Est. Alors là vous en avez un autre exemple que nous avons la chance d'avoir tout près de nous ici au musée Guimet. Hein, vous voyez, bien que cette statue du Bouddha soit mutilée, hein, il n'y a plus la tête et il n'y a plus une partie des bras, mais toujours est-il que vous voyez vraiment la splendeur et la maîtrise de cet art. Hein. J'évoque quand même au passage les grands Bouddhas de Bamiyan, hein, qu'on ne voit plus justement en Afghanistan. Hein, là, c'est avant la destruction donc de ces Bouddhas géants, donc taillés à même la falaise, donc qui ont été détruits par les talibans en 2001. Hein, et vous avez donc le site absolument grandiose donc de Bamiyan avec maintenant ces grottes vides. Hein. Juste encore pour terminer, hein, pour finir justement le voyage de cette statue bouddhique vers la Chine, vous avez donc l'interprétation chinoise donc d'un Bouddha ici. Vous voyez que il y a une très forte sinisation, bien sûr, des traits. Là, maintenant, les traits ne sont donc plus rien d'européen ici. Et vous remarquez que le Bouddha chinois est quand même très très habillé hein, par rapport à... Donc ça, c'est quelque chose de très amusant qu'on constate quand on suit justement la dite route de la soie de l'Inde vers la Chine, hein, c'est que, en fait, le Bouddha est de plus en plus habillé hein, à mesure qu'il part tout nu de l'Inde, et quand il arrive en Chine, il est habillé jusqu'au cou. Hein. Ici, vous avez un autre très bel exemple donc, de cette statuaire bouddhique chinoise. Et vous voyez ici que cette sinisation comporte aussi en fait, des traits qui sont beaucoup plus féminins. Autant le Bouddha indien est très, très masculin, hein, donc très, très viril, autant ici vous avez quelque chose de d'assez féminisé. Et vous avez le cas particulier donc, de ce bodhisattva qui s'appelle donc Avalokiteshvara, donc dans sa version indienne. Donc vous le voyez ici. Donc là aussi, c'est une référence à l'art indo-grec du Gandhara, avec donc le Bouddha avec le bodhisattva avec sa moustache. Et voilà donc la version chinoise, hein, très nettement féminisée. Hein, donc Avalokiteshvara donc s'appelle Kuan Yin en chinois, hein, donc Kannon dans la prononciation japonaise, et on va voir qu'en fin de parcours donc Avalokiteshvara, qui se présente avec une moustache, devient carrément une divinité féminine donc dans le panthéon bouddhique chinois, hein, Kuan Yin est encore actuellement en fait l'objet d'un culte, notamment de la part de femmes qui désirent avoir un fils. Hein, donc voilà. Bien, alors donc là aussi, je termine un petit peu mon tour justement de la statuaire bouddhique, un tour assez rapide. Ici, vous avez un échantillon donc de ce qu'on appelle les mudras, hein, c'est-à-dire les positions des mains, hein, en particulier donc des mains des Bouddhas ou des Bodhisattvas, qui ont des significations diverses hein, selon leur position. Vous avez donc la version chinoise ici. Donc, vous avez donc en premier donc cette main levée comme ça, hein, les doigts droits et vers le ciel. Et ça, c'est donc le mudra abhaya, c'est-à-dire donc de la non-crainte, littéralement, c'est-à-dire le Bouddha donc dit n'ayez crainte, vous n'avez rien à craindre si vous prenez refuge sous la protection donc de la loi bouddhique. Donc ça, c'est le mudra de la non-crainte. Ici, au contraire, la paume ouverte tenue vers le bas, hein, c'est le Bouddha donc dans sa position votive. Ensuite, vous avez le Bouddha de l'enseignement, hein, les mains tenues de cette façon, le Bouddha de la méditation, etc. Donc vous avez ce langage donc des mains du Bouddha. Alors donc en Inde, cette aventure bouddhique commence avec ce personnage qui porte le nom de Gautama Siddhartha Shakyamuni. Alors, Shakyamuni, ça veut dire donc celui qui appartient au clan des Shakya, donc le sage des Shakya. Siddhartha, c'est une sorte de surnom qu'on lui a donné, hein, c'est celui qui satisfait les désirs. Et Gautama, c'est son nom personnel, hein, probablement donc le seul qui soit véritablement historique. Et donc c'est un personnage qui aurait vécu, en gros, enfin les dates conventionnelles qu'on lui a longtemps attribuées, ce serait en gros entre 560 et 480 avant l'ère chrétienne, ce qui serait très commode parce que ça ferait du Bouddha, du Bouddha Gautama en tout cas, un contemporain de Confucius. Mais malheureusement, donc, les historiens se sont appliqués à repousser à une date plus tardive donc, ces dates, ce qui fait que en fait, sa mort serait plutôt placée aux alentours de 400 maintenant avant notre ère. Alors, je vous ai mis ici donc, la transcription chinoise de Shakyamuni, hein, donc ce serait Shijiamoni ou Shijiamouni, hein, qui explique que beaucoup de moines bouddhistes chinois voient leur nom précédé donc de cet élément sh. Hein. Chaque fois que vous voyez donc un nom dans le contexte bouddhique chinois précédé de cet élément sh, ça veut dire donc qu'il s'agit d'un moine bouddhiste. Et c'est par référence justement à la transcription du Bouddha Shakyamuni. Alors, ce Bouddha, je pense que nous allons devoir reporter à la prochaine fois donc, les détails sur son histoire et son enseignement. Simplement, je termine en signalant donc que à l'Institut Ricci, donc qui est l'institut donc des jésuites, dont on sait que ils ont été une des premières médiations entre l'Europe et la Chine. Donc à l'Institut Ricci, vous aurez très bientôt une série de conférences de Madame Anne-Lise Palidoni sur donc les Jataka, c'est-à-dire les histoires des vies antérieures du Bouddha. Ce sont donc des conférences, il y aura quatre conférences qui auront lieu les mardis de 16h à 18h, le 14, 21, 28 février et le 7 mars, donc au Centre Sèvres, hein, donc Centre Sèvres qui est donc de manière très prosaïque en face du Bon Marché. Hein. Bon, là vous aurez une série de conférences sur les vies antérieures du Bouddha. Donc la prochaine fois, qui sera donc, je le signale au passage, le dernier cours du cycle de cette année. Donc nous allons parler en fait des vies non pas antérieures mais des vies postérieures du Bouddha et de son enseignement. Donc encore une fois, bonne entrée dans l'année du coq et si le Bouddha nous prête vie, donc à la semaine prochaine. Merci.